Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour, nous sommes le 17 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Il y a une sorte de snobisme spirituel à croire que l'argent n'est pas nécessaire au bonheur. Albert Camus. La citation est la première que l'on trouve sur le profil LinkedIn de notre invité, Michaël Petitjean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de finance à l'UC Louvain et chief économiste à Waterloo Asset Management, chroniqueur régulier dans l'Écho aussi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide en fait, c'est ça?
C'est clair, oui. Et vous remarquez qu'Albert Camus a écrit « conditions nécessaires ». Il a pas écrit « conditions suffisantes ». Alors oui, l'argent... Ouais. Comme moyen est très important, c'est pas une fin en soi.
D'argent, il va forcément en être question. Durant ce brief, on va parler de l'euro et du dollar. L'un monte, l'autre descend. Il sera question de banques aussi, de banques centrales qui ont des politiques assez divergentes des deux côtés de l'Atlantique. C'est assez rare pour être souligné. Et puis on parlera d'Elon Musk aussi, et plus près de nous, des conflits sociaux, de Deleuze et de réformes fiscales. Je suis Laurent Fabry, Michaël Petitjean est mon invité. Bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
L'euro atteint donc son pic face au dollar. On frise 1,11 $ pour 1 euro. C'est du jamais vu depuis plus d'un an. Déjà, est-ce que c'est l'euro qui est fort ou le dollar qui est faible, Michaël?
Alors, c'est plutôt la faiblesse actuelle du dollar que je mettrai en évidence. Et cette faiblesse, elle est assez conjoncturelle. Elle est liée fondamentalement à trois facteurs. Tout d'abord, il y a la fin de la remontée des taux d'intérêt qui s'annonce aux États-Unis, alors qu'en Europe, on va sans doute être décalé de 3 mois. Le deuxième facteur, c'est quand même un ralentissement très attendu de la croissance économique aux États-Unis, et on s'attend à un ralentissement plutôt en douceur, un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Et troisième facteur, je dirais, c'est quand même les tensions dans le secteur bancaire. Il faut savoir qu'à partir du 8 mars, hein, c'est le 8 mars où il y a eu des tensions très fortes dans le secteur bancaire, c'est à ce moment-là que véritablement le dollar a commencé à décrocher. Donc ça, c'est les trois facteurs, je dirais, qui expliquent la faiblesse du dollar. Maintenant, attention, hein, il faut rester quand même prudent. Sur le long terme, depuis 2008, le dollar est dans une phase ascendante sur le moyen terme par rapport à l'euro.
D'accord. Un euro fort, finalement, c'est une bonne nouvelle ou pas pour les consommateurs européens et surtout pour les entreprises européennes?
Alors oui, effectivement, pour le consommateur, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les importations, notamment sur le plan énergétique, vont coûter moins cher, hein, vous voyez, parce que l'euro se renchérit par rapport au dollar. Donc tout ce qui est libellé en dollars va peser moins lourd dans le panier du ménage des consommateurs. Mais par contre, du côté des entreprises, alors c'est plutôt défavorable, puisque les exportations en euros vont coûter plus cher du point de vue, par exemple, américain. Vous voyez, donc c'est deux phénomènes qui sont plutôt... antinomique.
D'accord. On attend aussi cette semaine quelques statistiques économiques en Chine, le PIB au premier trimestre, les ventes de détail, la production industrielle aussi. Et est-ce que la Chine peut venir encore bousculer l'équilibre monétaire euro-dollar?
Alors non, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas que la Chine va devenir une puissance sur le plan monétaire importante. Elle va plutôt suivre une trajectoire à la japonaise. C'est-à-dire c'est un pays qui vit très vite. Mm-hmm. Et c'est un pays dont le revenu par tête, hein, la croissance du revenu par tête va fortement diminuer dans les années qui vont venir. Et je vois mal l'économie chinoise s'imposer sur la scène internationale sur le plan monétaire.
Alors on l'a dit, le renforcement de l'euro ou la faiblesse du dollar a pour conséquence une divergence de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. La réserve fédérale américaine s'approcherait maintenant d'une pause relativement longue dans ses taux, si l'inflation ralentit suffisamment en tout cas. Chez nous par contre, la BCE ne semble pas encore prête à assouplir sa politique monétaire. Christine Lagarde l'a encore répété dimanche soir, la priorité c'est la lutte contre l'inflation. Il reste encore trop d'incertitudes pour baisser sa garde. Et la récente crise bancaire ne devrait pas changer la donne. On en saura plus mercredi avec la publication des chiffres de l'inflation pour la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez, cette inflation? Est-ce qu'elle va durer?
Alors, elle risque effectivement encore de perdurer jusqu'à la fin 2024. Et si je m'attache à analyser la situation en Europe, en zone euro, il ne faudrait pas que la BCE vise absolument à retrouver ce niveau de 2%, parce que ça impliquerait des taux d'intérêt réels trop élevés, et ce qui viendrait quand même mettre un coup de frein très fort à la croissance économique en zone euro à moyen terme.
Ouais, d'accord. Cette divergence de politique monétaire, c'est plutôt inhabituel, mais c'est grave, docteur ?
Non, je dirais pas que c'est grave. Alors, je parlerai pas tellement de divergence, je parlerai plutôt de décalage dans le temps. Mmh. Il y a une désynchronisation des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe. L'Europe est en retard d'environ 6 mois, hein, la zone euro en retard d'environ 6 mois sur ce que fait les États-Unis. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les politiques monétaires de yo-yo qu'on a menées depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On a maintenu les taux trop bas, par exemple, en 2005-2006. On a maintenu les taux trop bas entre 2012 et 2017, de mon point de vue. Mmh. Et aujourd'hui, on les augmente très fortement. On n'avait jamais vu ça, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, depuis au moins 40-50 ans.
La saison des résultats a débuté vendredi aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, ce sont surtout les banques qui ont donné les résultats. Plutôt pas mal d'ailleurs. On attend encore Goldman Sachs et Bank of America cette semaine. Le secteur financier est sans doute celui qui s'en tire le mieux au premier trimestre. Est-ce que cela signifie pour autant que la crise bancaire que l'on a connue il y a quelques semaines n'était qu'un épiphénomène sur des cas déjà malades par ailleurs ?
Alors effectivement, comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire la crise bancaire que l'on a traversée ici en février n'a pas grand-chose à voir avec celle de 2007-2008, mais néanmoins, vous savez, quand on commence à parler du secteur bancaire, il faut rester très prudent. C'est un secteur dans lequel on n'a quand même pas une visibilité très grande, et c'est la raison pour laquelle c'est pas parce qu'on a passé le cap de cette crise de février qu'on doit évacuer de la table un scénario de tension à nouveau sur le secteur bancaire dans quelques mois. Donc moi je resterai prudent. Néanmoins, les banques sont effectivement plus solides qu'on ne le pense. Il faut regarder les résultats. Les résultats sont quand même très bons, et il y a eu effectivement un déplacement des dépôts des petites banques vers les grandes. Donc ce sont les grandes banques systémiques qui ont bénéficié de cette crise bancaire. Et c'est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle, puisque ce sont les crises bancaires systémiques qui sont les plus graves.
Seuls sont heureux ceux qui ont l'esprit fixé sur un objet autre que leur propre bonheur, sur le bonheur des autres, sur l'amélioration de l'humanité, suivi non comme un moyen, mais comme une fin idéale en soi. En visant autre chose, ils trouvent le bonheur en chemin. Là, c'est une citation de John Stuart Mill, un économiste britannique du 19e siècle, que, Michael, vous appréciez aussi particulièrement. Alors, est-ce que Elon Musk répond à cette définition du bonheur, selon vous ?
Alors écoutez, Elon Musk, je pense, cherche à faire progresser l'humanité, mais dans une quête d'absolu. Et il ne cherche pas nécessairement à faire de l'argent avec de l'argent, mais c'est une quête d'absolu. Et quand, vous voyez, on parle d'absolu, moi j'ai toujours quand même mon feu orange qui clignote, parce qu'on a affaire alors à des idéalistes avec un grand I qui peuvent faire des sacrifices quand même pour leurs idéaux, vous voyez. Mmh. Musk en fait partie. Alors, c'est une personnalité très particulière. Je lui préfère quand même de très loin, je vais vous dire franchement, Bill Gates.
Si on parle d'Elon Musk, c'est qu'il sera beaucoup dans l'actualité cette semaine. Il y a aujourd'hui le lancement de Starship, la plus grande fusée au monde, le plus gros lanceur de SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk. Elon Musk qui doit aussi donner une conférence pour tenter de faire revenir les annonceurs vers le réseau Twitter, des annonceurs qui semblent un peu échaudés par certaines dérives du réseau et de son propriétaire. Et puis, il y aura encore les résultats de Tesla mercredi. Alors revenons chez nous. Ce matin, il doit y avoir une audience préliminaire dans l'affaire qui oppose le CETCA, le syndicat socialiste, à la banque ING. L'organisation syndicale reproche à la banque, entre autres choses, d'avoir fouillé des adresses e-mail de ses employés pour licencier un syndicaliste. Mais cette plainte vise aussi la procédure de restructuration du réseau d'agences. On a vu aussi que dans le conflit social chez Deleuze, que les syndicats intentaient des actions judiciaires et pénales contre les entreprises et leurs dirigeants. Comment interprétez-vous, Michael, cette judiciarisation du combat syndical ? On est très loin, là, du modèle de concertation à la belge.
Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans une forme, alors pardonnez-moi ce néologisme, de mélanchonisation de l'action syndicale. Ce serait quelque chose de fondamentalement préjudiciable pour tout le monde. Mmh. et à la fois pour les entreprises, mais également pour les travailleurs, et notamment pour la classe moyenne. Il faut que la Belgique, et en particulier la Wallonie, reste une terre d'accueil pour les travailleurs, pour le progrès technique, et également pour le capital. Et qu'on l'appelle grand capital ou pas, il faut que la Belgique reste une terre d'accueil pour les multinationales. Les multinationales, c'est 37% de la création d'emplois en Belgique en 2021. Et la Wallonie accuse un retard sur la Flandre. Il y a trois fois plus de projets qui sont lancés en Flandre qu'en Wallonie. Il ne faudrait pas que la Wallonie décroche à nouveau en termes d'attractivité. Et ça se joue au niveau du climat social. Il n'y a pas que la fiscalité qui joue, il y a aussi la qualité du climat social sur le territoire.
Alors, on parlait de climat social. Ce matin s'ouvrent les négociations sectorielles dans la distribution, avec sur la table une possible harmonisation des statuts et des commissions paritaires. Sur la crise chez Deleuze en particulier, ça va faire près d'un mois et demi que dure le conflit. Très dur d'ailleurs. Encore plus de 20 magasins sont encore fermés, tous en Wallonie et à Bruxelles. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de réaction entre la Wallonie et la Flandre face à un même problème ? Les magasins flamands ont assez vite rouvert leurs portes, alors qu'à Bruxelles et en Wallonie, c'est pas toujours le cas partout. On est dans le cliché du Wallon gréviste et fainéant ?
Alors moi je veux qu'on évite tous ces clichés culturels. Et d'ailleurs, quelles que soient les figures politiques qui les emploient, il n'y a pas de Wallon fainéant, il n'y a pas de Wallon gréviste, il y a tout simplement une idéologie qui est de plus en plus ancrée dans la population et qui vise à la confrontation. Mais c'est pas par le conflit frontal qu'on peut avancer. Je pense qu'on va, tous y perdre dans ce conflit frontal qui maintenant dure.
Oui, effectivement. Et demain mardi, ce sera la première réunion entre patrons et syndicats de Deleuze sous l'égide du conciliateur social. Un mot sur la réforme fiscale, peut-être pour terminer. Le projet de Vincent Van Petegem est un peu détricoté par tout le monde. Et ce week-end, ce sont les régions qui contestaient le projet dans la mesure où le plan Van Petegem vient réduire les additionnels régionaux et donc, finalement, les moyens financiers des entités fédérées. Dimanche, ce sont les socialistes flamands de Voreuil qui revenaient à la charge avec l'idée d'un cadastre des fortunes. Est-ce que, à votre avis, on arrivera finalement à avoir une réforme fiscale digne de ce nom dans ce pays ?
Écoutez, il n'y aura pas de réforme fiscale digne de ce nom sans regarder ce qui se passe du côté des dépenses publiques. On nous parle de sobriété. J'aimerais bien que la sobriété s'applique aussi à l'État en tant qu'État. Il faut quand même qu'on pense à la manière dont on utilise ces dépenses publiques. L'État doit apprendre à être sobre. On a quand même des taux de dépenses publiques et de recettes fiscales dans le PIB parmi les plus élevés au monde. On ne peut pas le nier. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut veiller à la manière dont cet argent est mobilisé et est utilisé. Alors, c'est une chose. Maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait que la taxation du travail est trop forte. La taxation du capital, elle est mal répartie, mais elle est élevée également. Et moi, je ne voudrais pas qu'on arrive comme solution à aboutir une taxation du patrimoine. Parce qu'il n'y a aucun argument, de mon point de vue, lié à la justice sociale qui viendrait à taxer le patrimoine de personnes qui ont respecté le cadre légal et qui ont payé des taxes sur leurs revenus pendant toute leur vie pour essayer d'épargner, d'investir, de construire un patrimoine. Et j'attends plutôt à ce qu'on réfléchisse à la sobriété du fonctionnement de l'État.
Merci infiniment, Michael Petitjean, d'être venu à notre micro ce lundi matin. On se retrouve demain pour un nouveau brief. Merci.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.